chronique Luc, lutte.
Luc, oui, Luc.
Avec Francis Prudhomme, pas Luc. Bonjour. Non.
Salut Alexis, ça va bien, mon ami?
Ça va très bien. Je me suis mélangé un peu. Je voulais faire une blague. Ça a mal
non, passé. Non, c'était un bon entrée en matière. Ding, ding, ding. C'est pas pire. On voit que tu connais bien.
Ben, à force d'écouter tes chroniques, je commence à m'imprégner.
À m'imprégner de la lutte, hein, oui. Et cette semaine, je vais te gâter, mon cher Alexis, parce que je vais te faire revivre la guerre des lundis soirs.
Oh.
Ce qu'on appelait en anglais les Monday Night War entre la WWF et la WCW. Donc, pour te remettre et les auditeurs un peu en contexte également. Il faut savoir que dans les années 80-90, la majorité des émissions de lutte qu'on nous présente à la télévision sont des matchs préenregistrés et qui sont commentés par la suite en studio. Ce sont souvent des matchs là, qui ont eu lieu là, même des semaines, voire des mois avant leur diffusion. Donc, tout ça va changer, là, Alexis, en 1993, alors que la WWF va lancer son émission hebdomadaire Monday Night Raw, une émission en direct tous les lundis soirs. Elle va connaître un vif succès auprès des amateurs de lutte qui ont enfin un sentiment de nouveauté, un petit vent de fraîcheur là, pour les amateurs de lutte. Et tout ça va bien aller jusqu'en 95, lorsque la compagnie rivale basée à Atlanta est propriété du milliardaire Ted Turner, la WCW, pour tenter de rivaliser avec la WWF, va décider de lancer sa propre émission Monday Night Raw le lundi soir à la même heure.
Aha.
Donc, on va diviser l'audience des fans de lutte entre deux compagnies qui vont se faire la guerre là, entre 1995 et 2001. Et Alexis, à partir de ce moment-là, on va se rendre compte que tous les coups sont permis. On va en avoir un bon exemple lors du tout premier épisode de Nitro, lorsque Lex Luger, un lutteur que tout le monde croyait encore sous contrat avec la WWF, va faire son apparition chez la compétition. Oui.
Non.
Oui, et ça va prendre vraiment tout le monde par surprise, y compris les dirigeants de la WWF.
Ah ouais.
Puis pour la petite histoire, là, son contrat venait tout juste d'être terminé, mais ça avait comme passé sous le radar là, des dirigeants de la WWF. Personne ne s'était rendu compte là, que le contrat était terminé. Donc, secrètement, Lex Luger, lui, va se négocier un contrat avec les rivaux et apparaître lors du premier soir, là, du premier épisode de Night Raw. Il va se faire son apparition et les gens vont... Ça va vraiment avoir l'effet d'une bombe là, sur le monde de la lutte. Là,
ben oui.
Un lutteur là, qu'on croit... La petite histoire était la veille à Halifax, au Canada. Et le dimanche et le lundi soir était à Night Raw, je ne sais plus à quel endroit des États-Unis. Mais personne, à part une personne ou deux personnes étaient au courant de cette histoire-là. Donc, ça a eu vraiment l'effet d'une bombe. Et on va s'apercevoir, Alexis, là, que ça va être le premier, mais ça ne sera pas le dernier. Il faut savoir que la WCW, à ce moment-là, là, propriété de Turner, là, a plusieurs milliards dans ses coffres. Donc, l'immense moyen financier là, pour offrir une réelle compétition à la WWF va donc offrir des contrats garantis là, pour des sommes astronomiques aux meilleurs lutteurs dont les contrats viennent à échéance à la WWF. Et l'herbe est toujours plus verte chez le voisin, Alexis, on sait bien ça. Hein? Puis donc, avoir réussi à attirer dans ses rangs là, des gars comme Razor Ramon et Diesel, qui au départ agiront même comme s'ils étaient toujours sous contrat avec la WWF. Et on venait envahir la WCW. Et c'est une histoire là, qui va vraiment bien fonctionner et mener à la création de la NWO, un clan de lutteurs vilains là, qui va être au cœur de bien des histoires pour plusieurs années.
Ouais, j'aime tellement, tu sais, quand on parle de lutte, c'est ça, hein? c'est très théâtral, là. Des méchants sont méchants, là. Ils sont pas juste l'ennemi là, du public, c'est...
Non, c'était vraiment, là, je t'en reparlerai un jour, des clans de la NWO, mais la NWO, là, on peint sur le dos des adversaires avec de la peinture, en tout cas. Ça a été vraiment un clan là, très, très connu à la lutte.
Wow.
Et finalement, Alexis... On revenait à ce qu'on disait. Ce qu'à l'époque, là, plusieurs amateurs et connaisseurs de lutte ont cru serait le coup de grâce porté à la WWF, c'est la signature du champion de la WWF, Bret Hart, par la WCW, mais qui, au final, n'aura pas eu l'effet escompté. Mais je vous raconterai cette histoire en détail lors d'une prochaine chronique.
Ah,
c'est promis.
C'est une bonne façon de nous garder en haleine.
C'est un événement très connu de l'histoire de la lutte, donc on aura droit à son segment éventuellement avec toi. Et comme tu peux constater, Alexis, là, à l'époque, là, tous les coups sont permis pour la WCW. Une tactique qui fera particulièrement enrager les amateurs de lutte, c'est quand cette dernière a commencé à révéler lors de Nitro les résultats des matchs qui ont lieu à Raw. Parce qu'il faut savoir que Raw était redevenu un pré-enregistré, donc il se tenait un peu avant. Et donc la WCW donnait carrément l'issue des combats aux amateurs là, qui étaient s'intonisaient à leur enchaîne. Donc l'idée pour la WCW, c'est d'enlever tout intérêt des fans de regarder Raw, puisqu'ils connaissaient déjà l'issue des combats. T'sais, à quel intérêt d'écouter une émission si tu sais déjà tout ce qui va se passer? Mais une tactique, par contre, Alexis, qui va se retourner contre eux, plus particulièrement une fois, alors qu'ils annoncent que Mankind va remporter le titre de champion du monde, ce qui aurait pour effet de complètement renverser les codes d'écoute, alors que les fans de lutte vont par milliers changer de poste pour aller voir Mankind remporter la ceinture. Donc, ça va se retourner contre eux cette fois-là, là, où ils avaient l'avance dans les codes d'écoute, mais en annonçant le résultat de l'autre côté, ça intéressait les gens qui ont par milliers changé de poste.
Ils voulaient voir cette
Mankind voir le championnat. Wow. Et puis... WCW va remporter la guerre des codes d'écoute pendant quand même 83 semaines consécutives. Mais son obsession a toujours vouloir gagner cette guerre, à faire en sorte que la WCW avait la fâcheuse habitude de ne pas voir plus loin que le bout de son nez là, et de concentrer son énergie là, sur toujours les mêmes vieux lutteurs là, sans se créer de nouvelles vedettes. Là, donc, et créer de nouvelles histoires. C'est ce qui est un peu. Ça va devenir redondant, les mêmes histoires, les mêmes lutteurs. Ça va un peu perdre l'intérêt au fil des années. Puis pendant ce temps-là, la WFL, qui va totalement se renouveler en 97-98, et créer ce qui sera appelé plus tard, Alexis, l'Attitude Era, un produit beaucoup plus moderne qui s'adresse plus particulièrement aux adolescents et aux jeunes adultes. Donc, c'est beaucoup plus vulgaire et violent que ce que c'était. Je te rappelle, dans la chronique, on parlait des métiers. Là, c'est,
ouais.
On sort de cette époque-là complètement et là, on devient beaucoup plus vulgaire et violent et un produit plus de l'époque, là, fin 90, ouais. Le plus de son temps. Et on va créer des grosses vedettes comme Steve Austin et The Rock.
Ah.
Et puis, contrairement à la WCW, qui est, elle... avait l'habitude de signer des lutteurs en fin de carrière qui avaient fait leur renommée à la WWF dans le passé. La WFL va faire le contraire et acquérir les services de jeunes lutteurs prometteurs et leur donner la chance qu'ils n'ont pas chez les compétiteurs, c'est-à-dire d'avoir plus de temps d'antenne et des bonnes histoires pour se faire valoir. Il y a des lutteurs comme Chris Jericho, Eddie Guerrero et les Big Show là, qui ont tous beaucoup de succès et contribueront à leur façon à renverser la tendance et faire que la WF a connu beaucoup de succès. Et puis Alexis, la guerre des lundis soirs va prendre fin en 2001, alors que coup de théâtre, c'est pas le théâtre tantôt, là,
oui.
La WWF va acheter la WCW pour une poignée de pain, alors que cette dernière WCW le croule justement sous les dettes là, et elle fait maintenant comme partie d'un consortium, là, AOL, Motown,
ouais.
Warner. Et donc, vu que c'est déficitaire, chez les actionnaires de la WCW, on va à tout prix vouloir s'en débarrasser et on va voir la WF. Pas très cher à l'époque là, pour Biff. Et il a fait une usité alors que lors du tout dernier épisode de Nitro, on voit un segment de Raw qui est diffusé en simultané sur les deux chaînes. Donc, un moment surréel. Là, c'est à ce moment-là que le propriétaire de la WWF, Vince McMahon, s'adresse directement au lutteur de la WCW et demande aux fans de lutte là, quel lutteur de la compagnie de la WCW ils veulent voir rejoindre la WWF. Là. Un moment là, qui a été totalement surréel pour les fans de lutte, là, voir le même broadcast là, sur deux chaînes différentes.
Ben
là,
oui. C'était, ça l'annonçait que c'était la fin.
Exactement. Là. Donc, ça a été le dernier Nitro en 2001. Et donc, en résumé, là, pendant la guerre des lundis soirs, les fans de lutte ont été déchirés. Tu avais à côté les fans pur et dur de WWF qui ne regardent que Raw. Tu as les fans de WCW qui ne regardent que Nitro. Et tu as les fans de lutte là, qui regardent les deux chaînes, qui zappent d'une chaîne à l'autre les lundis soirs. Ou... Alexis, je sais pas si tu viens, mais t'es un peu jeune, toi, mais à l'époque, on avait ce qu'on appelle le magnétoscope. Donc, vieux vidéo. Donc, plusieurs fans de lutte là, écoutent en direct une émission et enregistrent l'autre pour pouvoir l'écouter par la suite. Donc, la technologie des années 90, le magnétoscope, où on enregistre les émissions qu'on ne veut pas manquer. Donc, c'est un peu ce qui résume, grosso modo, la guerre des lundis soirs entre la WWF et la WCW.
C'est super intéressant. Je me demandais justement, là, parce que j'ai pas l'impression que ça existait encore, la WCW. Fait que
non, c'est une compagnie qui a été dissoute en 2001.
Merci beaucoup, Francis. Toujours pertinent, cette chronique lutte.
Au plaisir, mon cher.
On va écouter Champion, justement, avec la chanson No Heaven.